tous de la part de l'équipe de la librairie Jean Calvin. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir pour l'inauguration de l'exposition sur Jean Calvin. Jean Calvin sous titre « De l'humanisme aux lumières de la foi », donc exposition qui souhaite retracer le parcours du réformateur français, puisque Jean Calvin était bien français et non pas un genevois, mais je pense qu'en ce 500e anniversaire, maintenant c'est connu. Et cette exposition retrace donc l'itinéraire de cet homme, toute sa vie, disons un maximum d'éléments sur sa vie, il y aurait énormément à dire sur Jean Calvin, même s'il n'a pas voulu beaucoup parler de lui, sa vie, son œuvre, et évidemment aussi sa doctrine, sa théologie. Cette exposition est née d'une discussion entre amis, l'idée est née d'une discussion entre amis lors de l'hiver 2008, et donc petit à petit l'idée a continué de germer et puis on s'est mis au travail en partenariat avec la mission Timothée installée sur Anduze, qui a donc bien voulu participer au financement de cette exposition, avec le musée du désert qui a fourni entre 80 et 90% de l'iconographie qui se trouve sur ces panneaux, et puis aussi en partenariat avec la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, qui a donc bien voulu nous accompagner de ses conseils dans l'élaboration des panneaux et de la vidéo, et puis aussi des textes lus. Voilà, donc cette exposition souhaite rendre Jean Calvin peut-être plus humain, car on a une image de Jean Calvin souvent qui correspond à celle d'un homme très austère, très sévère, distant. On se demande parfois ce qu'il reste de l'homme lorsque on a lu certains ouvrages du XVIe siècle, je pense notamment à Jérôme Bolsec, mais aussi repris par la contre-réforme catholique au XVIIe siècle, et ne parlons pas, même si c'est une grande plume, de l'ouvrage de Stefan Zweig, qui n'a rien d'un ouvrage historique, mais qui est un ouvrage polémique et qui tente de plaquer sur le XVIe siècle l'histoire de son propre siècle. Je souhaite donc à tout le monde la bienvenue. Je souhaite en particulier la bienvenue à M. André Théron, qui est président de l'Académie Cévenol, qui est l'ancien vice-président du Conseil économique et social de la région, président aussi de la Chambre de commerce. Et nous sommes très heureux d'accueillir M. Théron, qui nous a fait la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation et qui va venir ce soir nous donner une communication sur Calvin, l'économie, les finances. Alors c'est très intéressant parce que c'est un thème qui est très peu abordé ici dans l'exposition. Vous savez qu'on a souvent dit que Calvin était à l'origine du capitalisme. Je ne sais pas ce que M. Théron va nous en dire ce soir, mais c'est probable qu'il discute l'affirmation. Et peut-être qu'en tout cas, après sa communication, cela suscitera de votre part des questions. Donc nous laisserons, après que M. Théron nous ait fait part de sa communication, nous laisserons un temps de questions libres où vous pourrez donc interpeller notre orateur gentiment. Et nous aurons peut-être l'occasion d'approfondir donc certains points développés lors de son exposé. Voilà, merci à tous et je laisse la place à M. Théron.
Bien, merci. Je vais d'abord mettre mes prothèses, ce sera beaucoup plus commode. Voilà. Pour M. Belloir, merci de votre invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'être si nombreux pour parler aussi de Calvin. C'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne, donc c'est pour ça que je me suis consacré dans le cadre d'une communication de l'Académie Cévenol, cette 500e année, là-dessus. Dans le cadre de l'Académie, nous n'abordions pas des questions d'ordre théologique, mais nous avons voulu le faire, j'ai voulu le faire, sur des textes plus précis, sur l'aspect économique et social. Pas seulement sur l'aspect financier et capitaliste, mais sur l'évolution sociale et sociétale qu'a apporté Calvin à la société de son temps. Donc, on a parlé d'une manière très prolifique cette année de l'aspect théologique, des formes rituelles ou culturelles qui en ont découlé, avec une plage de commentaires qui, comme d'habitude, quand on parle de Calvin, vont de la géographie à la diabolisation. D'ailleurs, face à cet éventuel risque, Calvin avait demandé en son temps que son corps soit enterré à la fosse commune pour éviter toute forme d'idolâtrie post-mortem. L'ensemble de ce texte très polémique, voire humoristique, sur le culte des reliques justifiait certainement ce choix. Je reviendrai là-dessus aussi pour parler de l'humanisme et de l'humanité et de la réalité de la personne physique de Calvin. Calvin, on nous l'a caricaturé. C'est un personnage, la contre-réforme nous a fabriqué un personnage sinistre. Un personnage qui n'est pas aimable, qu'on n'a pas envie de rencontrer. Alors qu'en réalité, Calvin est un homme qui a une grande humanité, on verra, j'en parlerai à plusieurs moments, a une dimension humaine très importante. Théodore de Bèze, son ami, dira « Il ne s'est point bâti de tombeau en pierre morte, il a construit de pierre vive. » Plus bas, voilà, merci. D'ailleurs, si on a abordé ce sujet économique et social dans le cadre de l'Académie Sevenol, c'est qu'effectivement, il y a en général une carence là-dessus. Depuis ce deuxième semestre de cette année, 500e anniversaire oblige, dans la presse, il y a eu quelques articles qui ont évoqué l'aspect économique du discours de Calvin. On en a eu sur le CEP, sur la croix, on en a eu sur réforme, il y a eu le sermon du pasteur Manuel à la Candale Hospitalet, qui sont venus sur ce sujet, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est occulté. Ma compétence n'étant pas religieuse, ni historique, et ne souhaitant pas faire de prosélytisme dans le cadre de ce que j'avais à faire, j'évoquerai seulement son impact sur la société. Ceux qui ne considèrent Calvin que comme un théologien connaissent mal l'étendue de son génie. La phrase n'est pas de moi. Elle est de Jean-Jacques Rousseau. C'est une sacrée référence. Et on doit rechercher au-delà des conceptualisations seulement rituelles l'apport calvinien à la société de la fin de la Renaissance. Elle est en pleine mutation. Mais dont nous ressentons encore les effets. Pour cela, il nous faut en premier lieu, de la manière la plus simpliste qui soit, mettre en corrélation la chronologie et les diverses personnalités qui, à travers l'Europe, modulent la pensée de la société du temps. La présence simultanée d'un tel nombre de réformateurs est extrêmement significative. D'ailleurs, je m'étais amusé à me fabriquer un diagramme où j'avais mis l'année de naissance et l'année de la mort d'un certain nombre de personnages. Et effectivement, tout se recoupe. De Christophe Colomb à Léonard de Vinci, de Savonarole à Machiavel, d'Erasme, bien sûr, mais Michel-Ange aussi, on l'oublie, de Luther, Zwingli, bien sûr, Ignace de Loyola, Rabelais, Nostradamus, Palladio, Ambroise Paré, la médecine qui avance à ce moment-là, et Calvin. Montaigne, lui, est beaucoup plus tardif. Et tous ces braves gens vivent dans le siècle, la période de règne et de vie de François Ier. Donc nous sommes en plein sur le sujet. Nous sommes en plein dans ce sujet. Ce sera plus simple. Le monde et l'État en changent. La société médiévale et sa hiérarchisation sociale sont au bout de leur logique. Tous ces hommes bouillonnant d'idées neuves sont en relation directe ou indirecte. Par exemple, pour l'anecdote, à Paris, Ignace de Loyola et Calvin se rencontrent disciples au collège de Montaigu. C'est pas certain, mais c'est probable qu'ils se sont rencontrés. Quand je dis c'est pas certain, ni l'un ni l'autre n'évoquent cette rencontre dans leur texte. Il est vrai qu'appliquant le vieux principe politique, tu ne parleras jamais de ton ennemi, ça lui fait de la réclame. Peut-être. Et surtout, ils ne sont pas de la même génération. L'un a 10 ans de plus. Et Ignace est issu d'une grande famille, c'est un aristocrate. Par ailleurs, à ce moment-là, à son arrivée à Paris, Ignace vient avec une bourse que lui a donnée une grande dame espagnole pour étudier la théologie. Il a commencé sa carrière comme militaire. Il a 10 ans de service militaire armé avant cela. Et cette bourse, son ami disparaîtra avec. On ne connaît pas exactement les conditions, peut être attiré par la vie parisienne, on ne sait pas, ou trucidé dans quelques ruelles malfamées de Paris, il disparaît. Donc pour se refaire une santé financière, Ignace partira à Londres. C'est pour ça que lors de cette période-là, je me réfère aux théologiens et aux historiens, c'est peu probable qu'ils se soient fortement rencontrés ou opposés. Calvin fut un épistolier prolifique. Il sera en contact direct avec un grand nombre de grands esprits du moment. On estime à 8000 ces lettres, ces lettres et sermons écrits de ça même. Il en reste environ 4000 et vous les avez sur la borne, vous pouvez les consulter, je pense. Mais pour restituer Calvin dans le contexte général, c'est pas lui le précurseur de la réforme. C'est pas non plus Luther. Le précurseur de la réforme, c'est Jean-Louis Kleffel, 1330-1384. Le premier à rejeter la transubstantiation dans l'Eucharistie. La réforme sera dans le siècle suivant continental. C'est Jean Hus, 1371-1415. Ils sont très en avant. À Prague, qui est influencé par le discours de son prédécesseur anglais, lui aura surtout à cœur de dénoncer la simonie. Il mourra brûlé comme hérétique à Constance. Toutefois, Jean Hus a été précédé à Prague, vers le milieu des années 1300, par une réforme eucharistique sous le nom du trakisme, sur utraquin spécifique. La communion étant distribuée sous ces deux formes aux fidèles. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un renouveau assez fort de l'Église réformée en République tchèque et en Roumanie. J'ai assisté à quelques années de ça, j'étais un dimanche à Timișoara, quelques temps après les événements et la chute de Ceaușescu, à un office sur la cathédrale de la Grande Place de Timișoara, où il y avait une foule plus que considérable après 40 ans ou 50 ans de communisme qui impressionnait. Par ailleurs, aujourd'hui, l'engagement politique de ces églises en République tchèque et en Roumanie aussi, beaucoup moins en Roumanie mais en République tchèque, est assez important, avec des pasteurs qui rentrent en politique et qui deviennent députés, et une coloration qui est bien souvent à droite, relativement à droite. Martin Luther, lui, réactivera la réforme, mais c'est Jean Calvin qui en est l'organisateur politique, celui qui la structure. Son institution chrétienne en est un point fort. Et c'est l'institution chrétienne qui est la base de la pensée réformée dans le monde entier. Il donnera les premières règles de fonctionnement social et économique, j'en viens à mon sujet, qui conduiront aux évolutions postérieures. Toutefois, contrairement à ce que l'on dit habituellement, il n'aura jamais réellement le pouvoir politique. La réforme, sous sa nouvelle forme, débute à Wittenberg, avec Martin Luther, qui est né en 1483. Mais son deuxième point d'ancrage, ce sera Zurich. C'est à l'époque une ville de 7000 habitants. Là, c'est Ulrich Zwingli, né en 1484, qui œuvrera. Ils ont un an de différence. Zwingli, bien que prêtre lui aussi, est plus humaniste chrétien que théologien. Il est très modéré à ses débuts et en relation suivie avec Erasme. Son discours est grandement inspiré des textes pauliniens. Il dénoncera les vœux religieux et dans le texte de ses 67 thèses en 1523, il demande que soit confiée l'autorité ecclésiastique au pouvoir civil. Nous en venons au point essentiel. C'est à ce moment-là que se joue la modification de la société. Il obtiendra gain de cause auprès du conseil de la ville. Zurich est donc de fait la première ville politiquement réformée. Toutefois, confronté au pouvoir et à la politique, Zwingli perdra rapidement la modération humaniste de ses débuts. Et dans le conflit qui opposa les cantons entre eux sur ces questions politiques et religieuses, les choses n'étaient pas si simples. Ce fut une véritable guerre des religions qui opposa les cantons catholiques et protestants. C'est en octobre 1531, à la bataille de Capel, que prit fin cette lutte armée. Dès lors, chaque canton ou ville pouvait régler lui-même cette question. Zwingli fut tué à la bataille de Capel. Il était aumônier de ses troupes. Son cadavre fut écartelé et brûlé. Calvin s'appuiera sur cette antériorité politique initiée à Zurich pour participer à Genève de 1536 à 1538 et ensuite à partir de 1541. La venue de Calvin à Genève n'est pas accidentelle ni fortuite, mais les deux circonstances. Il circulait beaucoup la France, il avait circulé un peu partout, et à ce moment-là, il allait vers Strasbourg. Mais les guerres en Champagne le détourneront de sa route, et il ira à Genève. C'est donc, je ne dirais pas fortuit, mais une circonstance tout à fait particulière. Peut-être était-il prédestiné à cela, ça m'embête de mots. partir de 1541, je disais, une forme politique semblable. Toutefois, les bases existaient déjà à Genève, suite à la paix de Capel, en pays de Vaud, avant l'arrivée de Calvin. Un accord sera conclu en 1549 entre Zurich et Genève. Au travers de la gestion politique et morale de Genève, Calvin imposera des principes de doctrine qui seront des éléments d'évolution de la société. Daniel Robbs, je ne prends pas mes références dans un chez un écrivain, particulièrement par Payou, puisque Daniel Robbs, son esprit et son histoire de l'Église sont quand même un monument. Mais la partie consacrée à la réforme est extrêmement importante et intéressante et très bien traitée. Et lui-même, et Robbs dit, dans le petit groupe des maîtres qui, au cours des siècles, ont façonné de leurs mains le destin du monde, c'est Calvin le plus important. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, pour rester dans le domaine purement social et économique, trois points sont particulièrement significatifs, pas seulement l'aspect financier, je le dis en préambule. La place de la femme dans la société, la relation à l'argent, les arts, l'industrie, le commerce, le travail et les richesses qui en découlent. Ça va, les deux derniers postes sont plus ou moins ensemble. Au-delà du postulat essentiellement biblique chez Calvin, ces nouveaux éléments sont aussi la résultante du brassage des idées de l'époque. Mais on peut inverser aussi la chose en disant Calvin n'a jamais eu pratiquement le pouvoir politique à Genève. Il participe au conseil de la ville en tant qu'autorité morale. Il est pasteur. Il est français. Il n'obtiendra la nationalité suisse, la nationalité genevoise. Enfin, il accédera à la bourgeoisie, c'est le terme que l'on devrait employer, pratiquement seulement 5 ans avant sa mort. Donc, son propos pour influer sur la société de Genève, il doit le justifier par une position à caractère religieux, philosophique, spirituel, intellectuel, ce que l'on voudra, mais il n'intervient pas directement sur l'aspect politique de la ville. C'est pour ça que tout le référentiel que l'on retrouvera ensuite chez Calvin sera toujours, toujours, toujours un référentiel biblique. En premier lieu, débutons par les activités humaines et la création des choses matérielles de la vie. On évolue à l'époque dans une société où règne une hiérarchisation du travail qui distingue d'une manière très binaire, d'un côté les valeurs spirituelles considérées comme telles, et de l'autre les réalités matérielles. Il découlera des propos de Calvin, pour être schématique, qu'il n'y a pas de distinction de valeur entre les diverses formes de travail. Je vais citer Calvin, là. « Toutes les vocations soutiennent le même idéal de foi chrétienne. » Il fait toutefois une distinction restrictive pour certains métiers qui servent à volupté, voire à des voluptés qui ne sont guère chastes, et à l'oisiveté qui est désobéissance à l'ordre de Dieu. Il aura une autre phrase très sévère, c'est un polémiste, on l'a évoqué tout à l'heure, qui vise certainement l'aristocrate et le moine, et il dit « qui s'engraisse aux dépens des autres sans travailler, qui ravit le bien des autres. » Nous rentrons dans le vif du sujet. Là. Quand on parle des protestants, de la société, de leur relation à l'argent, on devrait en premier lieu parler de leur relation au travail. Dans la société, et là c'est là où Calvin est un type qui interroge fortement à ce moment-là, l'aristocrate se sentirait déchoir s'il devait travailler. L'aristocrate perdrait l'apanage de sa noblesse s'il se commettait à des commerces d'argent. Calvin dit tout le contraire de ça. Il dit « le travail, c'est ce qui rend noble ». Voilà, à peu près, schématiquement, le propos de Calvin. Chacun œuvrant selon ses possibilités, la position de Calvin sera « Dieu a ordonné à chacun ce qu'il avait à faire. Il a appelé de telle manière de vivre vocation ». On parle tout à l'heure de prédestination sur les panneaux, peut-être que c'est ce que voulait évoquer Calvin. Mais il complétera son propos sur la vocation et la déontologie qui en découle de la manière suivante. Dieu commande à chacun de nous de regarder sa vocation à chacun des actes de sa vie, car il connaît combien l'entendement de l'homme brûle d'inquiétude, de quelle légèreté il est porté ça et là, et de quelle ambition et cupidité il est sollicité à embrasser plusieurs choses ensemble. Aussi, de peur que nous troublions toutes choses à notre folie et témérité, distinguant ses états et manières de vivre, il a ordonné à chacun ce qu'il aurait à faire. Et afin que nul n'outrepassât légèrement ses limites, il a appelé toute manière de vivre vocation. Peut-être que Calvin était abonné au Figaro, au Monde ou à Libé, et qu'il avait lu un article sur le cumul des mandats. Parce que quand même, là, c'est vraiment une question à prendre en compte. Dans ce contexte, d'ailleurs, quand on parle du Calvin sinistre, du Calvin austère, la création artistique et les arts sont des éléments abordés par Calvin. Peindre et tailler son don de Dieu. Toutefois, il nuance en l'invitant à respecter en premier le second commandement de Moïse, ainsi que le discours de Paul aux Athéniens. Nous ne devons pas croire qu'il soit semblable à l'or, ou à l'argent, ou à la pierre, ou à tout ce qui est image pour l'homme. Parce que vers 1300, l'école toscane, à la suite de Giotto, était sortie des représentations figées des modèles antérieurs liés à la peinture de l'église d'Orient, pour aller vers une représentation plus humanisée, en s'éloignant de l'iconostase et de sa représentation du dieu Pantocrator de l'art byzantin. L'école de Sienne, les primitifs de Sienne, avaient terminé. C'était passé à un autre sujet, mais ça restait quand même un art officiel. L'Église de Rome, dès le 6e et le 8e siècle, dans son conflit avec l'Église d'Orient, avait largement pratiqué l'iconostase. On trouve d'ailleurs des textes extrêmement sévères, entre autres celui d'un évêque de Lyon vers cette époque-là qui est d'origine espagnole et qui a des textes qui sont, mais alors, bien plus extrémistes que tous ceux des luthériens, calvinistes et autres qui ont écrit contre les icônes et les représentations religieuses. Lors de ce conflit-là, l'Église de Rome aura une position extrêmement, extrêmement sévère. La réforme ouvrira la voie à une peinture émancipée des formes qui impliquaient l'art religieux ou officiel, pour aller vers une représentation de la réalité humaine. Rembrandt, pour ne citer que le plus important et le plus connu, nous donne un exemple fort d'une peinture réformée. La peinture devient narrative. On sort des sujets figés. Elle est anecdotique. L'artiste sort de l'anonymat. Aujourd'hui, nous recherchons qui c'est qui a peint telle fresque, telle tempéra dans telle église d'Italie. Nous nous posons des questions, mais à l'époque, il était certainement bien payé par le clergé qui l'utilisait en raison de son talent, mais le personnage et la personnalité du peintre apparaissaient peu. Par exemple, pour prendre un tableau tout à fait réformé dans son esprit et dans sa forme, c'est la leçon d'anatomie de Rembrandt. Elle est significative. Elle est significative de l'avancée technique et technologique de la société, puisque c'est la première fois que l'on pratique justement une dissection. L'Église y était opposée, il faut le savoir. Donc il y avait une seule qui était autorisée une fois par an. Et cette peinture narrative met en scène des gens, je ne dirais pas quelconque, le docteur Hux, sont des gens quand même importants, mais on rentre dans une narration, ce qui n'avait pratiquement jamais été le cas avant. Mais j'ai vu qu'il y avait un portrait de Théodore de Bèze là-bas. La musique, le chant, la poésie sont mis en avant à nouveau dans le nouveau rituel. La traduction des psaumes versifiés en langue française par Clément Marot et Théodore de Bèze sont un chef-d'œuvre de poésie, voire de romantisme. Et ce qui sera assez paradoxal, c'est qu'ensuite on retrouvera, quand on s'amuse à faire l'exégèse de certains textes, on retrouvera des psaumes partis de la version de Théodore de Bèze ou de Clément Marot et retraduits dans une autre langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'on repartira des textes français pour aller vers des textes allemands ou anglais, de textes de psaume, à partir des textes de Théodore de Bèze. On ne repartira pas du latin. Et c'est évoqué aussi par là, Calvin est l'un des premiers écrivains prolifiques d'une langue française de qualité. Il est contemporain de Rabelais, nous ne l'oublions pas. D'ailleurs, si on est honnête, intellectuellement, entendons-nous, c'est le premier écrivain de langue française vraiment construite, d'une langue française vraiment construite. Et d'ailleurs, Daniel Robbs, dans son histoire de l'Église, l'évoque largement, bien avant tous les autres écrivains que l'on cite après, et tous les grands prêcheurs du XVIIe siècle, les prêches de Calvin sont vraiment des chefs-d'œuvre de la langue française. Il y en a fait un par jour durant toute la période où il était à Genève, dont on n'est pas privé. On peut les consulter. Mais là où l'influence calvinienne est immense, c'est sur les activités économiques et industrielles. Si vous me permettez d'employer ce terme concernant le XVIe siècle. On sort enfin d'une idéalisation des travaux agraires. Le commerçant, l'artisan, celui qui, je cite Calvin, qui administre affaires publiques ou privées, font profession utile et honnête. À nouveau, on met en avant une dimension du travail. Une dimension qui n'a rien à voir avec la naissance, qui a à voir, bien sûr, peut-être avec la prédestination, les compétences qui peuvent aller avec, mais qui font que ce sont des gens qui sont reconnus, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Toute l'humanité, dans son référentiel intellectuel, je le précise, vit dans une sphère qui est d'un côté purement intellectuelle, et religieuse, dans une dimension d'un bucolisme virgilien, si je puis dire. Ce n'est pas le cas dans la réalité. Mais on essaye de faire passer cette image-là, que l'on retrouvera ensuite dans les siècles suivants, au XVIIe, au XVIIIe, le bon berger au bord du lac et la bergère, ce genre de choses, et les petits moutons, l'on retrouvera dans la représentation littéraire ou picturale. C'est une image, cette image, elle sert à gommer le reste. Tout ce qui est le travail, le vrai travail. Les aristocrates, eux, ne se commettent pas à ça. Les activités guerrières leur suffisent. Face à cela, Calvin, lui, à nouveau, nous dit « Il n'y aurait plus d'art mécanique. Il faudrait chercher les habillements et autres aides nécessaires à cette vie hors du monde. » Là aussi, il devient pragmatique. Ce n'est pas le personnage mystique et évaporé que l'on a pu aussi présenter. C'est un homme concret. Un homme concret qui parle de manufacture, qui parle de travail, qui parle de réalisation. Cette nouvelle forme de pensée ouvrira la voie à une spécialisation professionnelle et à une valorisation et une rémunération plus juste du travail. C'est le début des groupements d'artisans en forme d'entreprise. Les grands ateliers de Neuchâtel, les grands ateliers que l'on trouve autour de Neuchâtel, un peu au nord du pays de Vaud qui commence à démarrer, les premiers ateliers d'horlogerie, les premiers ateliers de mécanique qui se mettront en place seront sous cette forme-là. C'est une forme aussi de création mutuelle et d'intéressement mutuel, non pas de salariés, le terme de salarié ne peut pas exister à l'époque, mais d'artisans réunis. Et les grands ateliers que l'on voit à la Chaux-de-Fonds ou autres, aujourd'hui encore, que l'on voit ces grands bâtiments qu'on voit en longueur quand on est de ce côté-là, correspondent à cette époque-là, où des gens se sont associés, ont créé une société de secours entre eux pour que celui qui était défaillant physiquement ne soit pas laissé sur le côté. Tout ceci, ce n'est pas Calvin qui l'a créé. Il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion qui peut être une illusion arbitraire. Calvin, ce n'est pas un thaumaturge. Mais c'est ses réflexions, son discours qui ont amené ce genre de choses. La formation professionnelle fera partie intégrante des programmes. Les premiers collèges qui se créent à Genève et aussi rapidement dans le pays de Vaud, à Neuchâtel ou ailleurs, mettront cela en œuvre. Et c'est là où on rentre de nouveau dans notre sujet qui est les protestants, l'industrie et la création de richesses. Le début de l'ère industrielle trouve leur point de départ, leur ancrage culturel et leur justification à ce moment-là. Ce sera la base de la pensée qui permettra dès la fin du XVIIIe siècle, l'essor industriel, ainsi que le développement de l'ouvriérisme et de la culture qui en découle. J'emploie le terme d'ouvriérisme, parce qu'il y a toute une forme culturelle qui va fonctionner avec ça. L'homme pense parce qu'il a une main. Ce n'est pas de Luther, ce n'est pas de Calvin, c'est de Xénophon. Et cette reconnaissance du travail permettra justement de faire rentrer la société dans une autre dimension. Il faudra attendre 1891, et l'encyclique de Rerum Novarum, de Léon XIII pour avoir une position de la papauté sur la condition ouvrière. Cette encyclique sera en son temps, au sein de l'Église et dans la société, en général extrêmement contestée. Aujourd'hui, la nouvelle encyclique vient de paru il y a pratiquement 6 mois, 1 an, sur le travail. Je ne l'ai pas encore relu, j'ai vu que quelques passages paraissent dans la presse spécialisée. Est-ce que vous... Non ? Voilà. Alors, bien sûr, à ce stade, le travail, ça implique l'argent. À ce stade, il nous faut bien sûr aborder la problématique financière, l'argent et son usage. Alors, Luther, en premier, a déjà évoqué ce sujet. Nous avons extérieurement de l'argent, des biens, des terres et des gens. Ce n'est pas en soi injuste, mais dans l'ordre de Dieu. Personne n'est sauvé par le seul fait qu'il est mendiant et ne possède rien. Dans son décalogue, il condamnera les activités prédatrices et guerrières des siècles passés qui permettaient de s'enrichir pour aller vers des activités créatrices liées au travail. Calvin lui emboîtera le pas. Il dira « L'or et l'argent sont bons de nature et bonnes créatures de Dieu ». On est en plein. L'argent, ce n'est pas quelque chose de tabou. Ce n'est pas un sujet, je m'excuse du temps, ce n'est pas le sujet caca qu'on met de côté. Non, il faut parler de l'argent parce que l'argent, c'est aussi un moyen de liberté. Ça permet l'échange des hommes. On y reviendra un peu plus tard si vous voulez. Mais ça permet d'échanger entre eux. La parole, c'est une chose, mais l'échange dans la société peut se faire aussi de cette forme-là. Son propos se référant à la Bible, il dit aussi qui a regardé aux nécessités des hommes, ne leur a voulu défaillir en rien, et comme il a créé le blé, le vin et autre chose, comme il nous a, en somme, voulu nourrir et vêtir, il a ajouté l'argent afin que les hommes puissent communiquer les uns avec les autres. Dans le terme de libéralisme, il y a le terme de liberté. Et c'est une forme du libéralisme qui connaît cette liberté qui fait que les hommes peuvent échanger entre eux. Ils ne sont plus tenus par des systèmes qui les bloquent et qui les verrouillent. Bien sûr, on voit les aberrations que peuvent conduire à certains excès du libéralisme, et cette année a été marquante là-dessus, l'année dernière. Toutefois, il ajoute, c'est un homme sain, vraiment un brave homme, le succès n'implique pas qu'on soit un élu, ni la pauvreté qu'on soit réprouvé. Mais pour s'éloigner d'une image austère de Calvin, il nous faut le citer sur des phrases qui reviennent dans ces mêmes sermons qui abordent ces sujets-là, ces sermons ou ces écrits. Que le vin réjouit nos cœurs et que l'huile fait briller nos visages. Nulle part il nous est interdit de rire, d'apprécier la nourriture ou d'acquérir des possessions. Ou encore que l'on peut être enchanté par la musique ou le vin. Mais là, nous allons rentrer dans le point le plus important. Dans le domaine financier, bien sûr. C'est le prêt. Dans les pays obéissant à l'Église de Rome, le prêt avec intérêt est interdit. C'est considéré comme usure. Toutefois, des pratiques diverses existent déjà entre marchands. Les États font appel de même aux banquiers. Il faut voir la situation financière de la France à l'époque de la Renaissance, qui est totalement obérée par sa dépendance vis-à-vis des banquiers italiens. Il en est de même avec l'Espagne, qui est pratiquement au bout du rouleau financièrement, si elle ne pouvait être sauvée, si elle était maintenue à flot par les banquiers juifs. Et ce qui sauvera l'Espagne d'une crise, entre guillemets, économique, si on peut employer ce terme au XVIe siècle, qui le sauvera là, c'est le Pérou, et l'or du Pérou qui va arriver en masse. Mais les situations financières sont très compliquées. À Genève, avant même la présence de Calvin, il n'est pas l'inventeur du système. Le prêt est autorisé à 5%. Le taux est fixé par les autorités. En Angleterre et en Écosse, après la rupture avec Rome, le roi Henri VIII le fixe à 10% maximum. Les provinces unies fonctionnent de même. Toutefois, dans les pays catholiques, le prêt est nécessaire pour le fonctionnement des circuits commerciaux et de la production. Il se fait sous le manteau à 15% et bien souvent plus. C'est pénalisant. Ce sont souvent, pour la partie France, ce sont souvent des banquiers italiens, des Chinois ou des Lombards qui fournissent les fonds nécessaires au fonctionnement en particulier de l'État, et ils utilisent pour se financer leurs fonds qui sont liés à une large implantation foncière en Italie et la gestion de territoires, comment dire, ruraux, qui appartiennent à une certaine forme de noblesse. Là, Calvin prend une fois de plus des références bibliques pour s'aventurer sur ce sujet. En premier lieu, il constate qu'au temps du Christ, la notion de commerce international n'existe pratiquement pas et que les échanges se font entre juifs ou entre gens de même secteur, pratiquement de même famille. Calvin est totalement imprégné de droit romain. C'est sa formation. Il se penche sur ce sujet. Il abordera cette question en premier lieu en philologue, sur la traduction en latin du mot hébreu qui donne usura. Il se base sur l'Ancien Testament et il affirmera que ce n'est pas le prêt à intérêt qui est condamnable, mais les taux abusifs, pour le citer, qui mordent les pauvres gens et qui les rongent. La position qui consiste à dire que l'argent n'engendre pas l'argent est vieille. Elle remonte à Aristote. C'est l'assise de la pensée de Saint-Augustin, le très proche de l'aristotélisme. Cette position est reprise par le concile de Latran, 1515. Là, on devient proche de Calvin. Luther, lui, très prudent sur ce sujet, restera lui aussi très augustinien. Cela permettra ensuite à Calvin de faire l'une de ses nombreuses attaques de l'Église catholique qui interdit le prêt à intérêt et autorise le prêt hypothécaire plus lourd financièrement. Nous entendons aujourd'hui parler du débat de l'ouverture des banques à caractère islamique, ou islamiste comme l'on veut, justement sur ce principe-là, puisque c'est le courant interdit, lui aussi, l'intérêt, le prêt à intérêt. Donc nous nous trouvons confrontés dans des cas comme ça, ce que les propositions qui sont faites aujourd'hui par ce genre de banque correspondent à des prêts adossés. Des prêts adossés qui ont seulement une justification obligataire. Voilà, on pourra en parler après si vous voulez. Dans l'un de ses sermons sur le Deutéronome, il dit « Dieu n'a point défendu tout gain qu'un homme ne puisse faire à son profit. Car que serait-ce? Il nous faudrait quitter cette marchandise. Il ne serait point licite de trafiquer de quelque façon que ce fût les uns avec les autres. » Mais là aussi, il parlera une fois de plus de formation. Il est pasteur. À ce moment-là, il a été confronté au droit, ce sont ses études, et il a connu le monde autour de lui. Et il dit, il faudrait quelquefois que les prêcheurs fussent des marchands et qu'ils eussent manié tout le trafic du monde pour répondre à ceux qui demandent conseil à ceux-ci en particulier. Une fois de plus, il ajoutera une limitation à son propos pour préciser qu'un prêt peut être pervers s'il est inadapté, comme un billet tendu pour attraper les pauvres gens qui sont en nécessité. En France, le prêt à intérêt sera en principe interdit jusqu'en 1789. Ils continueront toujours sous le manteau, mais sera théoriquement interdit. Dans les pays réformés, ils permettront un essor économique dès la fin du XVIe siècle, avec en corollaire un déclin économique des pays catholiques. L'un des exemples les plus marquants et le port d'Anvers, qui assurait presque la moitié du commerce européen continental. En 1585, les Espagnols y appliquent de manière très stricte des mesures de contrôle. Pierre Huet, écrivain français, en 1677, dans son mémoire sur le commerce des Hollandais dans tous les États et l'Empire du monde, nous dit le commerce qui n'a point de plus mortel ennemi que la contrainte changera de demeure dès que les Espagnols voulurent priver les sept provinces et les Pays-Bas de leurs privilèges. L'Inquisition que le duc d'Albe y voulut établir en fit sortir un nombre infini de peuples. Les marchands qui étaient accoutumés de venir trafiquer à Anvers furent obligés d'aller commercer ailleurs. La pêche alla entièrement en Hollande. Les autres manufactures passèrent aussi à d'autres provinces. C'est sévère. Et c'est un texte qu'il adresse à son roi, le roi de France. Sir William Temple, ambassadeur d'Angleterre en Hollande, lui aussi écrit à son roi. Il écrit dans ses remarques sur l'état des provinces unies des Pays-Bas faites en l'an 1672. Il considère que l'essor économique est lié à la confiance que le peuple accorde à son gouvernement, qui consiste dans l'opinion qu'on a de sa force, de sa sagesse et de sa justice. En France, l'État créera les manufactures royales pour protéger son industrie. Elles seront exemptées d'impôts et bénéficieront de situations de monopole et de l'argent public pour fonctionner, de l'argent royal pour fonctionner. Elles serviront d'ailleurs ensuite, ces manufactures royales, à récupérer, après au XVIIe siècle, les entreprises dont les dirigeants protestants avaient émigré. Mais les commentaires sur les différences entre les systèmes économiques continueront durant les siècles suivants. Alexis de Tocqueville, en 1870, en est un exemple pour le citer. Dans l'histoire du monde, je ne vois aucun peuple manufacturier et surtout commerçant qui n'ait été libre, dit-il dans sa démocratie américaine. C'est vrai que Tocqueville est le Français le plus aimé après Lafayette aux États-Unis. Montesquieu aussi, avant lui, a consacré deux chapitres de l'Esprit des lois à ce sujet. La différence entre les pays catholiques et les pays protestants, la royauté et la République. Je ne ferai pas l'insulte de citer Montesquieu. François de La Rochefoucauld, à la veille de la Révolution, observe lors de voyage en Angleterre une grande égalité sociale. Il ajoute « Le grand seigneur et le fermier n'ont entre aucune différence que celle des richesses. » Voilà, disons, pour les parties financières. Et on ne peut pas dire que Calvin a inventé les assurances suisses, ni qu'il a inventé les systèmes mutualistes. Mais c'est à partir de ces postulats biblique, de son référentiel qui donne, que vont se construire les structures de pensée qui vont permettre d'aller vers cela. Pour conclure ce sujet de la liberté et du capitalisme, bien sûr, Max Weber est incontournable. Tout à l'heure, on parlait de Zweig et des problèmes qui en ont découlé. Mais dès sa première version de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, en 1904-1905, il formalisera sa pensée sur la sociologie des religions, en faisant très nettement la différence entre les pratiques religieuses irrationnelles et l'impact de ces mêmes religions sur les comportements sociologiques qui en découlent. Les positions de Weber et de l'école d'Heidelberg ouvriront un large débat qui se poursuit encore aujourd'hui et qui nous conduirait très loin. Après Zweig, même les nazis se sont penchés là-dessus, si on se rappelle bien, et il y a eu des échanges qui ont été extrêmement complexes là-dessus. Mais pour en revenir et pour terminer, sur un point que j'ai évoqué en tout début, c'est la position de la femme dans la société qui occupe une place importante dans les propos de Calvin. Si jusque-là, la femme est considérée comme responsable du péché originel et en situation de subordination à l'homme, les écrits et sermons de Calvin sont explicites en bien des points. J'ai péché dans ses écrits. Quelques phrases significativement révolutionnaires. On est au XVIe siècle. Donc, voilà, pour citer Calvin, l'obligation des deux sexes est mutuelle. La position de l'homme ne vient point de sa dignité et il doit ne se point exalter. Et aussi, tout ainsi que la femme est venue à l'homme, qu'aussi les hommes sont maintenus par les femmes. Il dénonce l'erreur de ceux qui pensent que la femme a été créée pour peupler le genre humain, comme si elle avait été donnée seulement pour coucher avec l'homme et non enfin qu'elle fût compagne inséparable de sa vie. On est au XVIe siècle. Il fait des références au verset 2:18 de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai l'homme semblable à lui. Au verset 2:23, où là aussi il se montrera philologue, car en hébreu, homme se dit ish et femme isha. Mais il sera un apologiste du mariage, considérant celui-ci comme une condition naturelle et un lien social essentiel, mais non comme un sacrement, d'où le divorce. Il portera une fois de plus une attaque contre l'Église de Rome, qui parle de souillure de la chair en qualifiant ceux qui soutiennent cette doctrine d'esprit abuseur et le célibat des prêtres de tyrannie diabolique. Ronsard, que l'on ne peut guère soupçonner de sympathie calviniste, écrira nombre de charges contre les gens d'Église sur ce sujet-là. Jean Calvin se mariera d'ailleurs tardivement en 1540 à une veuve Hydelette de Bure, qui mourra en 1549. Il sera d'ailleurs extrêmement éprouvé par la mort de sa femme, et dans ses textes, on trouvera énormément de réminiscences là-dessus. Ils auront un fils qui ne survivra pas. Il donnera une position officielle aux femmes dans la gestion sociale de la ville, en leur ouvrant le diaconat. Elles sont en charge de nombreuses fonctions. Il rendra l'école obligatoire, y compris pour les filles. Il faudra attendre le 19e siècle dans bien des pays européens pour que cela se généralise. Elles auront aussi le droit de gérer leurs biens et les femmes peuvent siéger dans le consistoire, dans les consistoires. C'est aussi important. Le consistoire, qui jugeait dans les affaires privées, intervient directement dans le cas de femmes bafouées ou battues. Il facilite les divorces à la demande des femmes. Antérieurement, ce n'est pas le cas. Dans le cas de prostitution, c'est le maquereau, terme employé par le consistoire, j'ai pris dans les textes officiels, qui est condamné. Voilà. Donc, il aura une position vis-à-vis des femmes qui sera extrêmement, extrêmement révolutionnaire dès le XVIe siècle. Aujourd'hui, on n'entend aucun référentiel chez les gens, chez l'agent féministe, tous les gens qui parlent de ça, qui se rattacheraient à cela. Alors que le premier qui évoquera ce sujet dans une société extrêmement crispée, figée là-dessus, c'est Calvin. Voilà. Bien, si vous voulez, pour conclure, en espérant ne pas vous avoir trop ennuyé avec ce personnage, que François Guizot, en 1869, dans une biographie qu'il lui a consacrée, décrivait les sentiments que lui inspirait Calvin par ces mots. Sinon, une tendre sympathie, du moins une profonde et respectueuse admiration. Merci. Dans cette affaire, puisqu'il est confronté à une situation qu'il ne maîtrise pas. Il faut remettre dans le contexte, d'ailleurs, tiens, si on veut, pour Servet. Servet, d'ailleurs, de son vrai nom, Miguel Servet, il est espagnol, est médecin. Ce n'est pas un théologien. Il est médecin, mais dans sa jeunesse, du côté de Salamanque ou d'Andalousie ou autre, il a écrit, là aussi, lui aussi, un texte où il attaque les fondements de l'Église apostolique romaine à travers des attaques sur des sujets comme la transsubstantiation et autres. Un petit libelle, pas important, il a 20 ans par là, mais il sera excommunié et condamné au bûcher. Il s'enfuit, c'est un médecin. On le retrouve à Gérone, on a une trace de passage à Gérone. C'est un homme érudit. Il a été confronté à la médecine dans le sud de l'Espagne et il connaît parfaitement le Talmud comme le Coran. Il parle d'ailleurs certainement l'arabe. Et il a certainement lu le Coran en arabe. On a trace de son passage de Servet à Montpellier. Parce qu'il est passé à Montpellier. Mais là, on le retrouve entre guillemets officiellement, c'est à Vienne. Vienne, Isère, hein, où il est médecin de l'évêque. Donc, sa condamnation avait dû passer un peu à la trappe par rapport à ses compétences médicales. L'avance qu'à l'époque possédait la médecine arabe comme la médecine juive fait qu'il maîtrisait certainement la circulation du sang et qu'il avait une qualification dans la pharmacopée qui devait lui permettre de se servir des opiumacées et ces choses-là. Il avait déjà une avance très très forte sur la médecine française. Il restera donc le médecin de l'évêque de Vienne. Mais là, son passé le rattrapera. Alors peut-être intrigue de la cour de l'évêque, on ne sait pas. Son passé le rattrapera et l'évêque sera sous la contrainte de devoir faire exécuter la sentence par les autorités civiles. Certainement que l'évêque, n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, facilita la fuite de Servet vers Genève. Là, Servet va se retrouver à Genève, où il reprendra contact avec quelques autres personnes, il rencontrera certainement Calvin. Calvin fait un sermon tous les jours, donc peut-être qu'ils auront une discussion théologique ou autre. Mais ce n'est pas avéré. C'est fort possible. Ils ont dû s'opposer peut-être, c'est fort possible. Toutefois, l'évêque de Vienne qui avait dévié le problème de cette manière-là, s'était contenté de faire brûler en effigie à Vienne Servet. À nouveau, l'Église qui ne pardonne jamais ce genre de crime demandera à ceux que le pouvoir civil procède à l'exécution d'une sentence qu'ils ont prononcée. Et là, je m'excuse du terme, on est bien embêté à Genève. Parce qu'à Genève, Calvin n'a pas le pouvoir politique. Parce qu'à Genève, on est en affaire avec tous nos voisins. En affaire marchande, économique, le conseil de la ville est bien embêté. Et ça va durer, ça va tourner autour de ça. On va trouver à ce moment-là des courriers dans les références. Là, on va trouver des courriers de Calvin vers Zurich en disant que je suis bien embêté, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. On va tourner autour de ça et la ville tardera à prendre la décision dans cette affaire-là. C'est vrai que l'exécution par le bûcher n'est pas proscrite. Elle existe encore à Genève. On a exécuté quelques temps avant à Genève des gens par le bûcher pour une histoire très douteuse de transmission de peste. Donc, ça existe. Mais là aussi, à nouveau, on trouvera un texte de Calvin qui ensuite sera violemment condamné, mais on trouvera un texte de Calvin qui dit « Si on ne peut pas sursoir à l'exécution de Servet, ne peut-on pas lui épargner le bûcher comme sentence ?» On trouvera cela. Et Servet sera exécuté. Et là va se déchaîner une opposition particulièrement violente contre Calvin, mais en interne à Genève. Des gens qui vont écrire contre Calvin en l'accusant de tous les crimes, en particulier de ce crime-là. En réalité, il n'a pas eu le pouvoir, et par ailleurs, il faut remettre peut-être dans le contexte, d'un point de vue humain, Calvin n'est plus un jeune homme. Il a déjà parcouru le monde européen, bien sûr. Il est déjà fatigué, sa femme est morte, peu de temps avant, 4 ans avant, 304 ans avant. Il est assez désemparé à l'idée de devoir repartir. Il est déjà parti une première fois de Genève, en claquant la porte. Après le problème de la... doit-on distribuer la scène à tout le monde ou pas, hein? Après ce problème-là, il est déjà parti rejoindre Martin Bucer à Strasbourg. Il n'a pas envie de repartir peut-être. Donc, on peut peut-être lui reprocher cette lâcheté humaine de ne pas avoir voulu claquer la porte à ce moment-là. Mais c'est le seul point que l'on peut lui reprocher. Alors qu'ensuite, on repartira là-dessus pour mettre des couches et des couches et des couches, des strates et des strates sur Servet. Voilà. Voilà ma digression.
Alors je rappelle donc que l'exposition est visible ici jusqu'à dimanche, de 10h à 19h tous les jours. Et pour finir cette soirée, je vous invite donc à passer à côté où il y a une collation de servi. Merci d'être venu. Merci encore à M. Théron.